VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Ici à Bamako, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. La lutte contre Boko Haram, 11 soldats tchadiens tués aujourd'hui dans une attaque des militants du groupe islamiste nigérian contre une position de l'armée tchadienne près de la frontière avec le Nigeria. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source sécuritaire tchadienne sous couvert d'anonymat. Les hommes de Boko Haram ont attaqué la position de nos forces à 3h30 temps universel ce matin à Kaigan-Ngouboua, à 2 km de la frontière avec le Nigeria, a précisé cette source. Cette attaque surprise a fait 11 morts dans les rangs de l'armée tchadienne et 13 blessés. Parmi les tués figure un officier supérieur, un lieutenant-colonel, a ajouté la source. Toujours selon cette même source, 17 militants de Boko Haram ont été tués par les soldats tchadiens. Les assaillants ont été repoussés et l'armée tchadienne continue le ratissage dans toute la zone. La secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, Joyce Handley, a fait l'éloge de la RDC hier pour les progrès accomplis dans le pays en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Le point avec Dili Diko.
Lors d'une cérémonie officielle en République démocratique du Congo, Joyce Handley, représentante du gouvernement britannique, a indiqué que la RDC a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre les violences sexuelles qui frappent depuis des années l'est du pays. Outre les progrès réalisés par la RDC, Madame Handley, également représentante spéciale du Premier ministre britannique pour la prévention des violences sexuelles dans les conflits, a fait remarquer que le pays a pris des mesures impressionnantes, témoignant de l'engagement clair du gouvernement congolais à mener des actions réelles et concrètes. Joyce Handley a félicité Kinshasa d'avoir mis en œuvre une stratégie nationale contre les violences sexuelles, mené les procès d'officiers militaires de haut rang condamnés pour crimes sexuels et nommé Jeanine Mabunda comme représentante spéciale du président Joseph Kabila pour la lutte contre les violences sexuelles en 2014.
Au Congo-Brazzaville, deux leaders d'opposition soulignent ce matin leur refus d'accepter le référendum sur un projet de nouvelle constitution prévu le 25 octobre par le gouvernement. La nouvelle charte fondamentale permettrait au président Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans, de se représenter en 2016. Pour Pascal Sati Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, premier parti d'opposition du pays, le président Sassou se trompe d'époque en essayant de se maintenir au pouvoir par le biais du référendum. Même critique de la part de Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais, qui parle, lui, de coup d'État constitutionnel. En Afrique, les grèves répétées des enseignants témoignent des difficultés du secteur éducation sur le continent. Au Gabon, par exemple, les enseignants ont arrêté le travail pendant 4 mois l'an dernier pour faire entendre leurs droits. Et aujourd'hui, ils doivent faire le rattrapage des cours de l'an passé. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants lundi, Nathalie Barge a joint dans la capitale gabonaise Claudine Auger-Angoué, anthropologue à la faculté des lettres de Libreville, qui expose les défis à relever quand on est prof dans son pays.
On a eu grève pendant 4 mois à partir du mois de février dernier. À l'issue de cette grève, les enseignants étaient mis sur bon de caisse. D'autres ont eu leur salaire coupé. Quand on a repris les cours, c'était une semaine par enseignement, maximum 2 semaines par enseignement. Ensuite, il fallait respecter les 2 semestres. Donc, tout le monde n'avait pas terminé les corrections parce que nous sommes obligés d'affronter des effectifs de 200 à 800 étudiants par amphi. Des collègues qui n'avaient pas terminé, surtout du deuxième semestre, sont obligés de corriger les copies, d'organiser les rattrapages qui ont commencé pour certains ce matin pour boucler l'année dernière. Il y a des notes qui sont affichées aujourd'hui pour les étudiants. Donc nous sommes encore dans l'année 2014-2015. Ça fait à peu près 10 ans que c'est comme ça.
Alors justement, beaucoup de grèves au Gabon. Comment vous faites pour rejoindre les deux bouts là, au niveau du salaire avec toutes ces grèves?
Heureusement pour nous, nous avons un peu de cervelle. Hein. Donc on réfléchit pour savoir comment il faut se priver pour joindre les deux bouts. Il y en a qui ont des opportunités, consultants par-ci, experts par-là. Il y a d'autres qui font la cour, qui deviennent les clients du politique, donc qui sont dans des cabinets politiques, qui sont dans d'autres activités extra-académiques. Donc chacun se débrouille avec son intelligence et les opportunités qui lui sont offertes.
Professeur Angoué, selon vous, quel est le plus grand défi à relever des enseignants en Afrique d'une manière générale?
ce serait prétentieux de parler de l'Afrique, mais je vais quand même parler du Gabon. De manière générale, au Gabon, le plus gros défi, c'est d'arriver à rattraper la qualité de l'enseignement que nous dispensons, simplement parce que le temps n'est pas donné pour les enseignements qu'on avait de 60 heures. On les ramène à 20 heures, à 15 heures. Donc, j'ai l'impression que nous profitons du système LMD qui nous a été quasiment imposé parce qu'on ne l'a pas étudié pour justifier un peu n'importe quoi. Donc le défi, c'est de pouvoir rattraper, revenir à un enseignement de qualité et puis à valoriser le travail de l'enseignant. Parce que finalement, c'est vrai ce qu'on dit que l'enseigner en Afrique, c'est un sacerdoce. Il faut vouloir, il faut aimer pour accepter de travailler dans les conditions qui sont les nôtres.
Il faut être passionné.
Il faut être passionné, il faut être fou. Pas que passionné, mais il faut être fou pour accepter d'enseigner à l'université, en Afrique francophone surtout.
Claudine Auger-Angoué, anthropologue à la Faculté des Lettres de Libreville au Gabon.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, cérémonie de désarmement du régiment de sécurité présidentielle RSP aujourd'hui à Ouagadougou. Initiative qui devrait mettre la touche finale à la dissolution de cette unité. Fer de lance du putsch avorté du 17 septembre. Parallèlement à cet acte symbolique, les autorités judiciaires, justice militaire d'une part et commission d'enquête d'autre part, s'activent pour faire toute la lumière sur le coup d'État manqué. Selon l'AFP, il y a eu des dizaines d'arrestations, notamment parmi les officiers du RSP. Deux leaders politiques ont également été interpellés hier soir et placés en garde à vue. Léon Skone du CDP de l'ex-président Blaise Compaoré et Herman Yameogo, président de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Au Togo, forte hausse de la dette publique ces trois dernières années, situation qui pourrait avoir des retombées négatives dans le pays dans un proche avenir, d'où l'appel des économistes à l'État togolais pour lui demander de revoir sa politique économique. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kai Lawson.
Selon le dernier rapport du FMI, le taux d'endettement du Togo représente 62,5% de son produit intérieur brut. La dette est évaluée à plus de 1 500 milliards de francs CFA, dont 700 milliards pour la dette extérieure et 800 milliards pour la dette intérieure. Pour l'association Veille économique, ce niveau d'endettement donne à réfléchir. Thomas Koumou, président de Veille économique.
Pour nous, à Veille économique, ce niveau d'endettement, c'est déjà critique parce que le seuil de convergence de la zone UEMOA se situe à 70% du PIB. Nous sommes à 62,5%. Et surtout, nous constatons que cet endettement n'a pas servi à financer des investissements productifs dans le court et le moyen terme. La CEI essentiellement a financé des investissements du tertiaire qui sont productifs dans le long terme, alors que nous sommes face à des besoins cruciaux, immédiats, auxquels il faut répondre.
Selon cette association, le Togo frôle le surendettement, ce qui inquiète les syndicalistes qui redoutent l'austérité. Professeur David Dosset de la coordination de la synergie des travailleurs du Togo.
Il est clair que l'endettement du Togo n'a pas du tout servi le développement de notre pays. Je pense sincèrement que l'austérité a commencé. Elle est pour le moment masquée. Mais si nous continuons sur cette voie, c'est sûr qu'elle sera de plus en plus criarde et le panier de la ménagère n'est pas prêt de se remplir. Pour que les revendications sociales puissent être satisfaites, il faut que le pays dispose de ressources. Mais là, nous nous rendons compte que la marge de manœuvre est de plus en plus réduite puisque le Togo s'est énormément endetté. Cela peut bien sûr impacter négativement nos revendications.
S'il est clair qu'aucun pays ne peut se développer sans s'endetter, dans le cas du Togo, l'économiste Stéphane Akaya estime qu'une révision de la politique économique s'impose.
Le Togo doit pouvoir assurer de manière optimale les besoins des populations. Si nous devons mener des politiques économiques cohérentes, c'est des politiques économiques qui mettent les populations au centre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir identifier des politiques économiques qui permettent réellement aux populations de pouvoir bénéficier de cette dette, orienter cette dette vers des secteurs porteurs, de sorte que ces secteurs porteurs puissent réellement permettre de payer la dette à l'avenir.
À l'issue d'une mission en août dernier, le Fonds monétaire international s'est inquiété de la détérioration de la dette publique du Togo. Dans son rapport, la mission a recommandé, entre autres, l'investissement dans les secteurs porteurs de croissance, la poursuite des réformes dans la collecte des recettes et l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer les investisseurs étrangers. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et pour terminer, l'OTAN juge extrêmement dangereuses les incursions de l'aviation russe en Turquie à partir de la Syrie. L'Alliance Atlantique demande à la Russie de mettre fin à ces violations de l'espace aérien turque. C'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.